trois invités chaque soir pour décrypter avec nous les mouvements de la planète marché. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Gilles Guibourg, responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles, merci d'être là. Merci également à Valérie Gasteldi, stratégiste Day by Day. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Clémence.
Et enfin, merci à David Belloc, stratégiste et gérant chez Mirova. Bonsoir David.
Bonsoir Clémence.
Alors, on va commencer par le spread, hein, le fameux spread. La France est la deuxième économie de la zone euro, mais aussi le quatrième marché obligataire mondial. Hein. C'est un des pays dont la dette est le plus détenue à l'étranger. Donc, les conséquences de la dissolution ont eu un impact immédiat hein, sur l'OAT français et surtout sur le spread avec le Bund allemand. Il reste aux alentours de 73 points de base environ depuis une semaine. Mais on emprunte maintenant plus proche du Portugal ou de l'Espagne que de l'Allemagne, soit un niveau d'un single A à peu près, alors qu'on est encore, encore pour l'instant en tout cas, à moins. Alors, trois questions pour vous. Cet écartement, est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il va évoluer dans les prochains jours? Et à quel niveau vous fixeriez le niveau d'alerte? Vous voulez commencer, Gilles?
Alors, est-ce que la réaction est normale? La réponse est oui, sans doute. Ouais. On avait déjà eu un premier downgrade récent de la part d'agences de notation sur la dette française. C'est clair que cette situation d'incertitude, elle pose des questions sur la capacité du gouvernement ou du prochain gouvernement à contenir les déficits. Et donc, très nécessairement, ça pose des questions sur l'évolution à venir de la dette. Donc, est-ce que la réaction est normale? Oui. Où est-ce qu'on peut aller? Là, je ne suis plus sur mon terrain, on va dire. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un niveau de 80 BP qui s'entère un peu, un niveau charnière.
Ouais.
Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas franchi ou franchi très subrepticement. Et chaque fois qu'on s'en approche, on voit qu'on vient taper dessus. Pour le franchir de manière plus durable, j'ai l'impression qu'il faudrait une accumulation de mauvaises nouvelles ou vraiment avoir des résultats d'élection qui, clairement... envoie un signal que non seulement on va avoir pas un maintien des déficits, mais une aggravation importante. Et d'accord. La question, c'est dans quelle mesure.
Ouais.
Ce qu'on est en train de voir, c'est que à l'approche de l'élection, toutes les mesures qui étaient très coûteuses, elles sont en train d'être démontées ou en tout cas amendées assez largement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour faire un pari là-dessus. Et sachant qu'en plus, notre métier, c'est pas de faire des paris.
Oh, bien sûr, ouais.
Donc voilà, il faut sans doute reconnaître qu'on va avoir encore un peu de volatilité à gérer et que de ce fait-là, dans les portefeuilles, il convient justement de se mettre en situation de pouvoir absorber cet excès de volatilité ou cette volatilité à venir qui va durer en réalité sans doute quelques semaines, voire quelques mois, en tout cas durant l'été, pour laisser au futur prochain gouvernement de tracer une feuille de route. Quoi.
D'accord. Valérie, votre avis, vous, sur la question, le spread, l'écart est justifié. La dernière adjudication s'est plutôt bien passée. La prochaine, elle sera entre les deux tours. Le marché a répondu présent. Est-ce que...
Alors, moi, je ne porte pas de jugement sur ce qui est justifié ou pas sur les marchés financiers. Tout est dans l'instant. Il n'y a pas de vérité. C'est un prix aujourd'hui. Demain, il sera différent. Alors, effectivement, il y a un niveau clair à 80 points de base qu'il faudrait faire attention de ne pas dépasser. Il y a quand même de fortes chances pour que... on ne peut pas dire vraiment une victoire, mais enfin, des votes au-delà de 30% pour le Rassemblement national, ça soit quelque chose qui soit maintenant déjà dans le marché.
Mm-hmm,
hein, c'est ce qui est attendu, ouais. Et ouais, le marché s'est adapté à ça. Si le Rassemblement national a plus que ça, ça ne va pas changer énormément les choses. Hein, au lendemain de ce premier tour... normalement, il ne va pas se passer grand-chose. On peut aller pousser... donc, vous disiez que ce soir, on était à 75. On peut aller pousser, justement, à 78-80 à vendredi soir. Ça me paraîtrait assez logique.
Ouais.
Mais au-delà de ça, c'est bien. En revanche, c'est à l'issue du second tour que, potentiellement, les gens peuvent prendre peur et anticiper un second tour qui soit un petit peu inquiétant parce que les triangulaires entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est très difficile de prévoir comment elles vont se dénouer.
Enfin, ouais, tout à fait.
Qu'on ait le droit ou pas le droit d'utiliser extrême, en tout cas, dans ces triangulaires-là, ou même dans les face-à-face, pardon.
Ouais.
Au deuxième tour, ça va être très difficile de prévoir le comportement des gens qui votent. Et là, bien entendu, ce que le marché n'a pas encore pris en compte, c'est potentiellement un programme à gauche qui arrive à faire passer des mesures, parce que leur programme est quand même assez dispendieux. Donc, ça pourrait faire bouger. Je dis ça pourrait, voilà. C'est pas pour ça que ça va se passer maintenant. Il faut quand même... sur les marchés financiers, quand on a l'impression que tout part à la catastrophe, c'est rarement à ce moment-là que la catastrophe survient. Voilà. Or là, quand même, le niveau d'inquiétude est élevé. Et il y a plutôt une forte chance pour que, si ça doit aller mal sur la France, comme suggérait Gilles, ça soit plutôt une accumulation de nouvelles et que ça soit quelque chose qui prenne du temps que quelque chose qui surgisse tout d'un coup pendant l'été. Donc en fait, la période de risque, c'est jusqu'au second tour. Et après, ça devrait se calmer. Pour un temps.
Pour un temps. David, votre avis, vous, sur...
Je pense que le niveau actuel à 75 BP, il acte de fait le fait qu'on a plus d'instabilité politique. Ça, c'est une certitude.
Mais la prime de risque est déjà
on dedans, était donc noté double A moins, peut-être un peu surnoté par rapport à nos fondamentaux, justement parce qu'on avait cette stabilité politique en France. Et là, on voit qu'a priori, pour les prochains mois, voire prochaines années, on a un risque. On a effectivement un premier, un deuxième et un troisième tour. C'est-à-dire que si dès le deuxième tour, on a une majorité absolue, soit RN, soit Front de Gauche, effectivement, on peut avoir un spike qui peut aller assez rapidement monter à plus de 80. On peut peut-être même atteindre 100, compte tenu du fait que le marché s'attend à ce que la France fasse des économies. On avait 10 milliards d'économies, a priori, pour le budget fin d'année. Et là, difficile, dans le cadre d'une majorité absolue, soit RN, soit Front de Gauche, d'imaginer qu'on n'aura pas, au contraire, des dépenses supplémentaires et assez substantielles. Même si ils sont revenus en partie sur leur promesse de campagne ces derniers jours. Donc, une instabilité politique par rapport à une potentielle démission de Macron, c'est pas à exclure complètement, soit dans le cadre d'une majorité absolue RN et Front de Gauche, soit même dans le cadre d'un gouvernement de coalition, mais on a vu que ces trois blocs allaient du mal quand même à se mettre d'accord. Et donc, il pourrait y avoir ce risque, même si ça a été effectivement affirmé évidemment par le président. On a pour l'instant, je pense, des investisseurs étrangers qui regardent ça d'assez loin, qui ont des exemples passés qui sont plutôt pas trop mal déroulés.
Oui.
À commencer par Mélanie. Je pense pas qu'ils anticipent un éventuel départ de Macron, et je pense qu'ils ont en tête une coalition ou un gouvernement technique qui peut fonctionner. Compte tenu des trois blocs en présence, je me permets d'avoir des doutes, ou en tout cas une forte incertitude dans les prochains mois, pour qu'on ait cette coalition qui fonctionne et qui arrive à voter un budget acceptable pour les marchés. Donc je dirais qu'il y a une dissymétrie haussière, finalement assez peu de potentiel de baisse, peut-être 5-10 quand même, en fonction des scénarios. Et par contre, il y a clairement une symétrie à l'écartement, mais quitte à ce qu'elle se manifeste et se réalise dans les prochains mois.
D'accord.
Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est intéressant, c'est que quand Liz Truss a été élue, qu'elle a présenté son mini-budget, etc., l'écart de taux entre l'Angleterre et l'Allemagne a explosé, dans des proportions bien plus importantes que ce que l'on a vu pour la France. Et on est à nouveau au même niveau. Sauf qu'on n'a plus la même première ministre et on n'a plus le même type de discours, etc. Donc en fait, c'est juste pour... Et le FTSE a beaucoup monté. Voilà, c'est juste pour rappeler que il y a une combinaison de possibilités qui est extrêmement large et que aujourd'hui un écart de taux au-dessus de 80 bips, c'est un risque majeur. Pour la France, ça déclenche quand même, c'est une grosse surprise, un gros choc. Si ça se produit plus tard, si on y va lentement, etc., ça peut avoir des conséquences un petit peu différentes, notamment sur les marchés actions du coup.
D'accord. Alors, ce qui fait peur, effectivement, c'est l'accroissement du déficit public quand on voit les mesures qui sont proposées par surtout les deux parties extrêmes. Alors, ceci dit, il y a quand même des garde-fous. Alors, et déjà, il y a le principe de réalité. Alors, on a eu des précédents, on a eu Trump, on a eu Mélanie, etc. Donc, on voit que, bon, quand même, quand on gouverne, c'est un peu différent. Il y a aussi la BCE qui est là. Il y a quand même des institutions. Alors, on a la procédure pour déficit excessif. Pour l'instant, il n'y a jamais aucune sanction qui a été appliquée. Mais enfin, est-ce que c'est possible? L'outil fragmentation. Alors, pour l'instant, la BCE a dit on ne s'en servira pas. Et puis, il y a aussi, évidemment, les marchés. Alors, les marchés, il y a la bourse qui peut sanctionner, effectivement, l'indice français. Il y a les taux, si l'OAT explose. Est-ce que tous ces garde-fous, les marchés, ne peuvent pas s'imposer comme garde-fous vis-à-vis de politiques dispendieuses ?
Ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est que on parle de Mélanie, mais quand on retourne un peu plus en arrière et qu'on revient en 2000, ça doit être en 2018, quand le mouvement 5 étoiles est arrivé en Italie,
oui.
Et on est un peu plus dans ce... Pour moi, là, ça ressemble plus à l'arrivée du mouvement 5 étoiles que l'arrivée de Mélanie.
Oui.
Parce qu'en réalité, Mélanie, avant d'arriver au pouvoir, avait déjà été faire acte d'allégeance chez Draghi.
Oui.
Et donc, elle avait déjà bien préparé les marchés sur le fait qu'elle allait rester disciplinée. Donc là, on est plus dans un... Pour l'instant, en tout cas, donc, face à une inconnue, de savoir quelles vont être les réactions.
Oui.
Ce qu'on a vu, c'est que le mouvement 5 étoiles, finalement, quand il est arrivé, le principe de réalité s'est imposé. Et on l'a vu avec la Grèce, et on l'a vu avec l'Espagne.
Oui, avec Tsipras et Dubaï, oui.
Je pense qu'effectivement, il est légitime de s'inquiéter sur la volatilité qu'on risque d'avoir et qu'on aura très certainement. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quel est notre horizon d'investissement ? Et quels sont les différents scénarios ? Et si on prend un pas en arrière, on se dit, bon, bah, aujourd'hui, dans les portefeuilles, il faut sans doute... s'apprêter à encaisser un surplus de volatilité. Donc comment on fait pour gérer cette volatilité et donc éventuellement réduire quelques expositions ici ou là à ce qui peut être le plus réactif, on va dire. Mais je pense qu'il faut aussi utiliser cette volatilité pour éventuellement construire des positions sur le moyen terme, parce qu'on a quand même des points d'entrée.
Ouais.
Parce qu'on a des entreprises françaises qui sont quand même très largement globales et en réalité qui dépendent pas complètement de ce qui se passe complètement
en France. Et en Europe,
alors il y a un scénario qui serait très négatif ou plus négatif pour les entreprises françaises, c'est si effectivement demain on annonçait une hausse généralisée des salaires, puisque là on aurait effectivement une atteinte à la compétitivité de ces entreprises. Ce scénario, il existe. Ce que nous disent les sondages aujourd'hui,
c'est que c'est pas le plus probable.
C'est pas le plus probable. Donc ça, faut quand même l'avoir en tête. Mais donc, si on met de côté ce scénario-là, on se dit qu'aujourd'hui, bah, finalement, on a des entreprises qui restent quand même solides et on préfère se concentrer sur l'état du monde et l'état de l'économie et de savoir comment on va se développer l'économie, parce qu'on a quand même, au-delà de l'élection française, un certain nombre d'incertitudes qui peuvent être liées à l'élection américaine, qui peut avoir des impacts encore plus importants en cas de mise en place de droits de douane, et qui pourrait, pour le coup, éventuellement faire dérailler la croissance mondiale de manière un peu plus importante. Donc, on est sans doute dans un moment où il convient surtout pas de jouer les matamores, de replier un peu les voiles, et de se mettre dans une position, on va dire, d'attente, pour traverser ce qui risque d'être une période de gros temps ou de volatilité, en revenant sur des sociétés solides ou sur des fondamentaux solides, c'est-à-dire éviter les excès de dette dans les bilans.
Garder la solvabilité.
Voilà. Et donc, c'est un moment où je pense qu'il faut... faut pas hésiter à être un peu timide et surtout pas essayer de jouer les matamores parce que on sait pas exactement comment ça peut se terminer.
Valérie, votre point de vue, vous ? Est-ce que les marchés peuvent servir de garde-fou, là ?
Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si c'est de faire pression sur la BCE,
ouais.
Non, aucune chance.
Faire pression sur... Non, bien sûr, pas du tout faire pression sur la BCE.
Sur les gouvernements ?
Oui.
Le problème, c'est que c'est l'Europe. Donc, c'est vachement plus compliqué parce que l'Istrus, la pression, elle est venue de la livre sterling. Parce que la livre sterling, elle s'est effondrée, elle a perdu 15% en deux semaines. Nous, l'euro, il va baisser, bien entendu, si on a une élection très surprenante et qui est jugée très défavorable. Mais il y a très peu de chances pour qu'il baisse de 15%.
Oui, ça, c'est
vraiment très peu. Qu'il en reperde deux, oui, c'est possible. Mais donc, la pression, elle ne va pas être portée directement sur la France. Pour porter la pression sur la France, il va falloir du temps. Et justement, là où on n'a pas du tout le garde-fou qu'on a connu dans les années précédentes, et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les procédures pour déficit excessif, elles ont été revues, et elles ont été revues dans l'optique de pouvoir les appliquer.
Oui.
Et que la France pourrait bien servir d'exemple.
Oui, c'est une nouvelle mouture, là. Et, oui,
voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la BCE soit tendre dans les mois qui viennent. À la fin... Un de ses rôles majeurs, c'est de défendre l'euro. L'euro est attaqué, bien sûr que là, il va falloir qu'elle remette en place des mécanismes qui lui permettent de défendre l'euro. Je ne sais pas ce qu'ils seront, si on reprendra les anciens, des nouveaux, peu importe. Mais dans un premier temps, je doute qu'elle soit tendre à l'égard de la France et qu'on ait un traitement qui nous favorise. Donc les marchés obligataires français sont quand même plutôt à éviter parce que toutes les tensions, elles vont se reporter sur les marchés obligataires français. Voilà. Et après, comme disait Gilles, cela dit, les marchés actions, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Enfin, le fait qu'on soit en Europe, que le CAC 40, ça soit quand même beaucoup d'entreprises qui exportent.
Oui, bien sûr, et qui n'ont pas forcément un chiffre d'affaires en France, loin de là.
C'est pas facile de décaler. Et que potentiellement, la vitesse de tous ces événements va être ralentie par le fait qu'on est en Europe et qu'il y a beaucoup de mécanismes d'ajustement de marché qui sont contraints par l'euro, ça veut dire que potentiellement on peut avoir des trajectoires relativement différentes entre les obligations françaises et les actions françaises, peut-être, parce que celles qui ont une activité en France importante ou celles qui pourraient être taxées, etc., ça peut être un petit peu plus compliqué encore. En tout cas, ça peut rester lourd. Moi, je ne me précipiterai pas pour acheter de l'ADP ou du Vinci tout de suite. J'attendrai un peu. mais après, je sais pas, quand je vois Schneider, je vois pas pourquoi on pourrait pas continuer à en acheter. C'est très cher, ok. Oh, peut-être qu'il faut attendre qu'elle baisse de 5%, mais c'est ce type de pourcentage qu'il faut surveiller. Elle va pas nous donner grand chose. Schneider, c'est notre Nvidia, hein, c'est ce qu'on fait de mieux dans la tendance haussière en France. Alors c'est très modeste, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a. Donc c'est pour dire que de la même façon que sur Nvidia, bah, quand elle baisse de 10%, mais c'est après en avoir pris 100 en quelques semaines, c'est peut-être tout ce qu'elle va faire comme baisse. Bon, Schneider, quand elle perd 5%, c'est peut-être une opportunité super. Pour le moment, en tout cas, je peux pas dire autre chose. Donc, je pense vraiment que là, on peut pas avoir de raisonnement à l'emporte-pièce. C'est ce qu'on voit sur la dette française par rapport aux autres dettes, c'est tellement différent que... voilà, il faut tout traiter au cas par cas et donc les choses vont prendre du temps à s'organiser en Europe, mais avec une pression sans doute qui va monter sur la France.
D'accord. David, est-ce que vous pensez qu'il y a des garde-fous sur la dette française
Il y a les marchés taux, les marchés actions. Au sein des marchés actions, effectivement, les valeurs internationales de qualité, les valeurs domestiques, celles les plus touchées explicitement par les programmes. Bon, pour ce qui est du marché de la dette française... L'activation du mécanisme, ce qu'on appelle TPI, en fait, de la BCE, pourrait effectivement clairement jouer son rôle de garde-fou, mais il faudrait que ça soit un écartement des spreads injustifié. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit une spéculation des investisseurs internationaux sur la dette française.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce qui, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On attend que le budget soit voté, on attend de voir quelle coalition ou quel gouvernement sont en attitude vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que en Meloni-like, ce gouvernement serait prêt à rentrer dans les clous par rapport aux exigences de l'Union européenne et des partenaires? Bon, il y a énormément d'incertitudes. Mmh. Mais si effectivement le spread doit ou devait s'écarter suite à un bras de fer musclé entre le nouveau gouvernement et l'Union européenne, face à des dépenses non financées et une trajectoire de dette insoutenable, on peut comprendre que nos partenaires européens ne nous suivent pas et on peut comprendre que la BCE utiliserait cette hausse de spread et les marchés pour faire pression sur l'État français. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le scénario central et on a le temps effectivement d'ajuster, mais le mécanisme de TPI ne serait pas tout de suite appliqué en cas de stress. Un scénario un peu plus probable, effectivement, c'est des dépenses révisées à la baisse, donc peut-être pas les économies voulues, mais enfin en tout cas quelque chose d'acceptable, qui justifie un spread aux alentours de 80, donc un coût de la dette peut-être par rapport aux Allemands supérieurs, mais compte tenu de la baisse des taux, finalement ça va pas impacter vraiment les finances publiques, d'autant plus que on a 100 milliards à refinancer sur 285 cette année. Ça représente 10% de notre dette totale, à des niveaux de taux qui finalement sont inférieurs à ce qu'on avait l'année dernière. Le coût vraiment sur les finances publiques à ce stade, c'est gérable. On a donc effectivement des partis qui sont peut-être à cœur de montrer leur respectabilité vis-à-vis des milieux d'affaires et des marchés. Donc on a aussi ce scénario central qui peut se mettre en place. Alors après... Pour ce qui est des actions, on a des actions internationales de très bonne qualité. Il a été cité Schneider, on en a un certain nombre, qui là, je pense, effectivement, ont très peu de chiffres d'affaires en France. Le CAC 40, c'est 15% de chiffre d'affaires en France. Donc, on a une croissance mondiale qui est très solide, encore, malgré le soft landing aux États-Unis, on a quelque chose de très solide. on a des baisses de banques centrales à attendre, un mouvement des inflations, un mix croissance-inflation qui est favorable au marché actions. Et donc ça, ça peut être effectivement des très bons supports en achetant un peu plus bas ces actions dans le cas d'un repli post-élection.
D'accord. Du coup, il y a des opportunités d'investissement à faire.
Pour ce qui est des titres vraiment domestiques liés à la hausse des taux, typiquement ceux qui ont souffert en bourse, banques, assurances, utilities, immobilier. Là, effectivement, quid de l'OAT et du coût de financement, mais pour l'instant, la baisse est justifiée. Et pour ce qui est des secteurs comme les médias qui sont directement impactés par d'éventuelles réformes, donc en l'occurrence le RN et la privatisation du secteur public, là, effectivement, je pense qu'il faut se tenir à l'écart dans un premier temps.
D'accord.
Okay. Donc, le maître mot, c'est incertitude, prudence. Les choses peuvent se faire en plusieurs temps. Mais si effectivement il y a des opportunités sur les valeurs de croissance, qualité, faible exposition France, c'est évident qu'il faut y aller. Et le pire n'est jamais certain. Et donc, on a aussi un scénario où on stabilise à 75-80 bips sur le spread qui peut être gérable à terme.
Gilles, vous voyez des opportunités, vous, en Europe, en ce moment, du coup, parce que
Je pense que
les multiples sont moins élevés qu'aux États-Unis.
Aujourd'hui, quand on regarde le marché européen, il est revenu sur des multiples qui sont proches des multiples de long terme. Donc, de manière agrégée, il n'y a pas d'opportunité évidente.
Ouais.
En réalité, quand on regarde un peu plus en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la cote qui sont ces valeurs de qualité internationales qui sont plutôt... qui traite avec une prime qui est quand même assez marquée. Alors, pour des bonnes raisons, parce qu'on regarde, en fait, c'est des sociétés qui, depuis plusieurs années, ont accumulé une surcroissance par rapport à tout le reste. Et donc, la seule chose, c'est... sur lequel il faut être attentif, c'est de s'assurer que il y ait une continuité de cette croissance.
Bien sûr,
et c'est pour ça que je disais précédemment, ce qu'on va regarder, c'est plutôt ce qui va se passer à l'issue de l'action des élections américaines pour s'assurer que cette croissance, elle est toujours là, parce en réalité, ces primes accumulées, elles sont le reflet aussi d'un positionnement d'investisseur qui est très consensuel, ce qui fait que si on devait avoir une déception sur ces valeurs-là, il y aurait sans doute un potentiel de baisse qui serait important. Parce qu'on est assez loin des moyennes de long terme. Donc ça peut être entre 10 et 20%. Mais c'est vrai, sur un horizon court terme, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est des valeurs qui peuvent rester intéressantes pour des investisseurs qui réfléchissent plutôt à 5 ou 10 ans. À côté de ça, il y a tout un pan de la côte dans lequel on va retrouver des défensives qui traitent plutôt en dessous des valeurs de long terme. On regardait récemment, on a eu un certain nombre de valeurs de la santé. Alors si on exclut Novo Nordisk, quand on regarde les Sanofi, dans les biens de consommation durable, on prend un Unilever, un Danone, on est revenu sous les moyennes de long terme, alors même que c'est des sociétés qui, certes, ont revu leur niveau de rentabilité, elles ont rebasé un peu les attentes, mais on est plutôt, maintenant qu'elles ont rebasé les attentes, dans un scénario où elles sont en train de retravailler leur algorithme de croissance et elles retrouvent un peu de croissance.
D'accord.
Et donc on a eu l'occasion de rencontrer ces dernières semaines plusieurs de ces sociétés-là. Il y avait Danone qui faisait son Capital Market Day la semaine dernière. C'est pas des messages qui sont, on va dire, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est des croissances à 3-5%.
Oui, oui, oui.
Mais une croissance à 3-5% en chiffre d'affaires, qui conduit à avoir des croissances de rentabilité, de profitabilité, on va dire plutôt entre 7 et 10%, avec un dividende à 3,5%, vous traitez sous les moyennes de long terme.
Oui.
C'est exactement ce que j'exprimais précédemment, c'est dire, compte tenu de la nature de ces business qui sont en réalité assez peu volatiles, je trouve que c'est des bonnes positions d'attente et où on a plutôt une asymétrie à la hausse qu'à la baisse. Et
d'accord.
Donc, on a moyen de se cacher. Si on regarde les réseaux électriques, ça a pas fait grand-chose cette année, alors qu'aujourd'hui, on parle tous de transition énergétique. Et on n'aura pas le choix, parce qu'en plus, à mesure qu'on rajoute de l'intermittence dans les réseaux, il faut renforcer les réseaux électriques. Les réseaux électriques, vous avez des actifs qui sont régulés, qui intègrent dans leur modèle de rémunération, que ce soit l'inflation, que ce soit le coût de la dette. Et on a des actifs, là encore, qui se traitent en dessous des valorisations de long terme. Donc, c'est des valeurs et qui vont payer des dividendes à 5%. Donc, encore une fois, c'est pas forcément aller chercher le rendement le plus élevé,
bien sûr,
mais le rendement, on va dire, le plus probable et le plus stable et le plus sûr. Surtout en ce moment.
Valérie, vous voulez revenir sur des actions, enfin des secteurs, des valeurs qui, selon vous, présentent une opportunité ? On parlait de l'énergie électrique, mais...
Je trouve que moi, je préfère, pour choisir les valeurs, attendre la fin de ces élections.
D'accord.
Okay. Parce que les ajustements sectoriels, je trouve, ils ne sont pas clairs du tout. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des choses qui s'améliorent. Unilever, c'est beaucoup mieux. Danone, elle surprend.
Non, ça ne fait pas forcément rêver, mais...
Voilà. Donc, en fait, quand on se porte... Si le marché se porte vers des trucs qui font du plus 3, plus 5 de croissance, c'est qu'ailleurs, il n'a plus d'opportunités. Donc, ça veut dire qu'on est dans un environnement global qui est quand même extrêmement détérioré. Et ça veut dire que la construction totale du portefeuille, il faut la revoir. Pour moi, hein, pour que l'alimentation se repasse en surperformance. Elle est toujours en sous-performance, hein, le secteur alimentaire. C'est pas les biens de consommation non cycliques, pareil, c'est pas super sexy si on les regarde en agrégat par rapport aux indices.
Mais ça peut être une position d'attente du fait de l'incertitude.
Et pour protéger la baisse, en fait.
Pendant quelques semaines.
Pour quelques semaines ou quelques mois. En attendant de, parce que l'incertitude, elle va pas s'arrêter l'été.
Elle va pas s'arrêter au soir du deuxième tour. C'est vrai que si c'est le RN, on a déjà prévu le deuxième temps. En fait, quel que soit finalement le parti au pouvoir, c'est quand même le budget 2025 qui va être le juge de paix, non?
Eh bien, justement, ça va te prendre plus de temps. Moi, je pense que en termes de rythme, début juillet, on aura anticipé le pire et on aura soit le pire qu'on a anticipé, soit peut-être un peu mieux, ou en tout cas une incertitude positive, si je pouvais parler d'incertitude, en tout cas un soulagement. Et que c'est uniquement après la rentrée parlementaire et après un certain nombre de tentatives de négociations, etc., déjà il va falloir former le gouvernement. Rien que ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, ce gouvernement. Pendant tout ce temps-là, comme il y a plein de choses qui ont été massacrées, comme pour le moment, le marché américain ne nous met pas particulièrement de pression à la baisse, ça monte et je ne suis pas sûre pour moi que les risques y soient pendant l'été. Moi, je verrais plutôt...
Je pense qu'ils sont bien au-delà de l'été, mais c'est pour ça qu'on est dans une période d'incertitude qui va durer et que comme on ne sait pas forcément la timer, c'est de se dire, là, on va rentrer dans une eau de turbulence qui va durer et donc on se met dans une position de pouvoir passer ces quelques mois où on va limiter, on va se protéger contre une baisse extrême qui n'est pas certaine. Mais il n'y a pas de raison non plus de s'envoler. C'est que compte tenu de l'incertitude, on peut avoir un rebond ponctuel, mais il n'y a pas de raison de s'envoler.
D'accord.
Parce qu'on a encore des incertitudes sur la croissance et qu'on va avoir des incertitudes dès la rentrée avec les élections américaines. Et donc, il est très peu probable d'imaginer le marché puisse s'envoler fortement.
Je n'aurais pas forcément la même approche sectorielle entre l'Europe et les États-Unis.
On est
en phase d'incertitude. La France, c'est 20% de la croissance européenne. Mm-hmm. Il y a un effet contagion dont on a parlé. Mm-hmm. On a une surperformance des cycliques très nette depuis le début de l'année en Europe. On valorise les cycliques comme les défensives en agrégé, alors qu'historiquement, les défensives ont une prime par rapport au marché et par rapport aux cycliques. Donc, on peut, effectivement, ça a du sens. Alors, on a cité effectivement le secteur pharma, qui en plus de ça est exposé dollar, est un parfait hedge contre les risques politiques, géopolitiques. Mm-hmm. On a en plus quelques histoires, effectivement, avec davantage de croissance anticipée ou un pipeline intéressant. Donc, il y a un argumentaire pour aller vers plus de défensives au sein des marchés européens, aller peut-être un peu moins de France et un peu plus de UK, par exemple, pour les élections de 4 juillet.
Oui,
je pense que les élections peuvent constituer un catalyseur positif pour le marché UK, et particulièrement peut-être pour les petites capitalisations anglaises.
D'accord.
On a une situation croissance qui s'améliore, on a une désinflation, une banque centrale qui va bientôt baisser ses taux. Plus de visibilité, et contrairement là pour le coup aux propositions françaises, que ça soit travailliste ou conservateur, la même idée de vouloir financer la croissance long terme et le potentiel de croissance avec des dépenses d'infrastructure, chose quand même qui nous manque cruellement en France, en tout cas au vu des propositions. Donc je pense qu'il y a un call UK, particulièrement petite capitalisation. Mais je serais plus méfiant sur les cycliques classiques. Après, tout dépend de la violence du mouvement de baisse potentielle post-élection sur ces secteurs cycliques et sur ces bancaires. On a des bancaires qui ont un très fort dividende, des valos quand même attractives. Elles ont corrigé par rapport à leur plus haut. Ça peut à nouveau constituer un point d'entrée si on a 5-10% de baisse supplémentaire. Aux États-Unis...
Oui, on y va ou pas. Le marché est très différent.
Le marché aux États-Unis, moi, ce que j'appréciais avec les États-Unis, c'est que je pense que le mouvement de désinflation va perdurer. Je pense qu'on va rentrer dans les clous à 2% d'inflation l'année prochaine. Donc, on a une banque centrale qui a maintenant la possibilité de baisser ses taux de manière plus sereine dans le cas d'un ralentissement du marché du travail. Ce qu'on commence à percevoir, même si le marché du travail reste équilibré, on a autant de demandeurs d'emploi que d'offres vacantes, on a globalement, je trouve, un marché américain qui croît son potentiel et on peut avoir un élargissement du leadership. On reste long technologie, on reste long, bien évidemment, thématique intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a un rattrapage possible aux États-Unis via des secteurs cycliques, via éventuellement des petites capitulations là aussi en cas de victoire Trump, qui serait moins impacté par les tarifs. Donc on a encore des opportunités sous la surface aux États-Unis avec un potentiel de croissance de bénéfices et de marges non exploitées, je pense, et non réalisées sur une partie de la cote aux États-Unis.
D'accord. Même si les PER sont très élevés, on peut quand même aller voir.
Les PER sont élevés pour la techno, 28, 7 points d'expansion de multiples, mais une très forte croissance, très forte marge, donc justifiée à ce stade. Il faut valoir continuer à délivrer. Sur le reste de la cote, on a une valorisation qui est à peu près en ligne avec historique, sur une situation macro ou croissance mix inflation qui est quand même très solide.
D'accord.
Et un marché qui est immunisé contre les risques européens, contre même pas mal de risques géopolitiques, qui est surdétenu par des ménages. 6 ménages sur 10 détiennent des actions américaines. Ouais. C'est quand même quelque chose de très, très solide.
Bien
Donc
sûr.
À ce stade, ça ne me semble pas irrationnel d'aller constituer une poche, effectivement, encore malgré les niveaux de valorisation sur les États-Unis.
D'accord. Valérie, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le marché US, c'est une opportunité d'investissement en ce moment ?
Oui, c'est pas possible de pas y être. Je suis tout à fait d'accord. Bon, après, ce qui est toujours compliqué pour les gens, c'est que c'est quand ils n'ont pas encore acheté et qu'ils doivent acheter des valeurs qui ont déjà beaucoup monté.
C'est ça.
Voilà. Et là, bien entendu, ça exige quand même un petit peu de professionnalisme parce qu'il faut savoir gérer un risque. Il ne faut pas acheter et puis attendre pendant 6 mois parce que il faut gérer le risque. Donc, il faut acheter la bonne quantité. Il faut acheter avec un stop. Il faut réessayer si ça ne marche pas. Enfin, il faut vraiment être tactique dans ce type de situation sur les valeurs qui ont beaucoup monté. Mais on entend beaucoup dire que le marché américain ne monte que parce que il y a 4 valeurs, je l'exagère un peu, hein, qui montent. Avant de venir, j'ai regardé le Dow Jones. Bon, ok, il fait rien, il monte pas.
Oui.
Mais c'est pas du tout les mêmes pondérations. Bon. Mais dans le Dow Jones, il y a 30 valeurs, c'est facile donc de vite comprendre le Dow Jones dans ses dynamiques individuelles. Mais en fait, il y a 14 valeurs qui sont en gros au plus haut historique.
D'accord.
Quand je dis au plus haut historique, c'est elles n'y sont pas ce soir, mais au cours des 4 dernières semaines, elles ont fait un nouveau plus haut et la consolidation depuis, elle est vraiment mineure.
D'accord. Okay.
Donc, cette hausse... Alors après, il y a plein de valeurs qui se sont carrément effondrées. Hein. Enfin, c'est... Mais donc, cette hausse, elle est... on ne peut pas dire qu'elle soit complètement malsaine. C'est... Le problème, c'est sur certains indices des concentrations de pondération.
Oui.
Mais après ça, justement, dans la gestion, en fait, personne n'a le portefeuille indiciel. Quoi. Enfin, normalement, un gérant, il ne refait pas le portefeuille indiciel. Si on veut avoir le portefeuille indiciel, on prend un ETF.
Bien sûr,
Et là, il faut avoir une gestion, à nouveau, beaucoup plus tactique. Mais si on... Si on gère un peu plus correctement son choix de valeur, je ne pense pas que ce marché, pour le moment, soit particulièrement dangereux.
D'accord.
Je pense qu'il faut en avoir, ouais.
Gilles, votre avis sur le marché US
Alors, je regarde ça d'un peu plus loin. Je regarde ça d'un peu plus loin. Maintenant, ce que je note, hein, c'est que il y a une valeur dont tout le monde parle.
Oui, bien sûr.
C'est Nvidia. Et que quand je regarde les oscillations qu'on a maintenant de manière quotidienne, avec des variations qui sont assez fortes, et que je vois effectivement cette dimension retail qui est aussi importante, y compris sur la participation à la hausse, ça m'inspire quand même un peu de prudence.
Oui.
Moi, j'ai commencé à travailler en 97-98 sur les marchés actions. Je me souviens bien de la partie 2000. Et quand on voit ces mouvements, quand je regarde les variations quotidiennes de Nvidia, j'ai quand même l'impression qu'on est plus proche de la fin que du début.
D'accord.
Après, Une fois qu'on a dit ça, il faut être très prudent, mm-hmm. parce que ça peut durer longtemps, la fin.
Oui, c'est ça, exactement.
Et donc, vouloir être dehors avant tout le monde, c'est se tromper. Mais néanmoins, à minima, pour moi, encore une fois, ça incite un peu de prudence.
Oui.
Ça incite un peu de prudence. Et on voit que, même si ce n'est pas complètement parfait, hein, quand on regarde ce qu'a fait le succès d'NVIDIA, oui, ils ont monté les volumes, mais ils ont surtout monté les prix. Mmh. Hein, on regarde l'évolution de la marge brute d'NVIDIA, c'est phénoménal. Aujourd'hui, ils ont des marges brutes qui sont supérieures à ce qu'on peut avoir dans le luxe.
Oui, non, mais bien sûr, ils sont donc, en situation de quasi-monopole, ils ont pris.
Mais on voit que derrière, on voit que derrière, c'est en train de s'organiser. Alors, on n'y est pas encore. Hein.
Oui.
Mais des AMD, des Micron qui essayent d'apporter des solutions. Mmh. Donc, voilà, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. On va dire que, pour l'instant, je suis assez content de ne pas être confronté à ça au quotidien. Parce qu'effectivement, pour un gérant américain, ça ne va pas être facile de gérer ça en portefeuille comme position.
D'accord.
Parce que si on n'en a pas, on a tout perdu. Et en même temps, ça peut se retourner assez vite. Donc,
voilà, oui. C'est toujours la question assez difficile à gérer. Alors, on va passer à notre dernière question. Qu'attendre cet été sur les marchés? On en a un peu parlé, mais alors, à quels indicateurs vous allez être attentif pour surveiller le marché dans les prochains mois là. Alors, si on met de côté là, les deux prochaines semaines, ensuite, bon, on aura le résultat. Qu'est-ce que vous allez regarder et surveiller de près?
Nous, au sein de l'équipe, on gère surtout des fonds actions où on fait de la sélection de titres. Et donc, on va arriver en période de résultats. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les résultats d'entreprise.
Évidemment.
Et c'est ça qu'on va scruter à la loupe, parce qu'on avait quand même des attentes de rebond de l'économie.
Hein. Ouais.
On avait eu des bonnes surprises à l'issue des premiers trimestres.
Bien sûr.
On avait eu une inflexion positive sur les perspectives de résultats sur l'année, où on avait eu une révision à la hausse, hein, qui nous a ramené peu ou prou sur les niveaux de début d'année. Mm-hmm. On avait commencé par avoir des baisses. Et on avait un message des entreprises qui était plutôt constructif sur la deuxième partie d'année, en disant on a un rebond qui se profile pour la deuxième partie d'année.
Tout à fait. Depuis, on a eu la baisse des taux de la BCE.
Voilà.
Normalement, donc, hors ce risque politique, il y avait un boulevard pour que tout se passe bien. Hein.
Mais donc, on va voir, il va être important de voir si ce rebond il se confirme. Mm-hmm. Est-ce que cette reprise, cette embellie qu'on a vue, c'était lié à des effets de restockage? Parce qu'on avait tellement baissé les stocks qu'il a fallu à un moment donné réaligner les stocks avec la production. Du coup, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on a eu un effet, on va dire, one-off, comme on dit, à l'issue au premier trimestre? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure? Et donc, on va vraiment regarder les messages sur le deuxième trimestre. D'autant que si on veut être un peu prudent, on voit que la consommation américaine, qui est un moteur essentiel, qui est un élément essentiel de la croissance américaine, c'est 66% du PIB américain qui vient de la consommation, on voit que la consommation américaine, alors on se rassure en disant les très riches continuent à consommer, oui très bien ils continuent, mais les plus pauvres,
il y a un effet de masse quand même qu'il faut...
Et en fait cet effet de masse il s'élargit, c'est-à-dire qu'avant on parlait effectivement des premiers prix, maintenant on s'aperçoit que y compris Starbucks a fait des annonces que ça commence à ralentir.
D'accord.
Donc en fait, la partie la plus basse, ça a tendance à percoler vers le haut.
D'accord.
Donc je pense que ça va être intéressant de regarder les dynamiques de consommation, surtout sur la consommation discrétionnaire aux États-Unis, parce que c'est un élément essentiel de la croissance américaine.
Ok, très bien. Valérie, ce que vous allez surveiller, vous, sur les marchés dans les mois à venir là?
Bon, moi, je surveille avant tout les prix pour avoir des signaux, parce que le reste, je trouve que ce n'est pas un élément qui permet de solutionner une équation.
Oui, non, mais bien sûr, oui.
Avec des tonnes d'inconnus. Au moins, sur les prix, il y a un seul truc à surveiller. Mais si on fait abstraction de ça, pour moi, une fois évacué le risque immédiat des élections françaises, et avant d'envisager des élections anglaises qui peut-être ne nous concernent pas trop. Enfin bon, je pense qu'on va se remettre à penser à l'inflation américaine, parce que c'est quand même le gros point d'interrogation. C'est est-ce que vraiment la Fed va
baisser ses taux ou pas,
baisser ses taux en 2025? Est-ce que cette inflation en prend le rythme? Parce que sinon, les marchés vont se mettre à anticiper, à repousser à nouveau ces baisses de taux. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis ça, c'est ce qui va peut-être nous faire passer l'été. Puis après, on va penser uniquement aux élections américaines. Alors, est-ce qu'il va y avoir des promesses qui vont avoir des influences économiques majeures ou pas? C'est pas sûr. Mais enfin, pour moi, donc on va surtout rester centré, je pense... pour moi, le vrai risque, il est sur l'économie américaine et l'évolution de l'inflation.
D'accord, l'inflation américaine. David, vous, qu'est-ce que vous allez surveiller dans les mois à venir ?
Alors, donc, on a un premier débat le 27 juin entre Trump et Biden.
Oui, bien sûr.
On a une potentielle incarcération de Trump mi-juillet.
C'est vrai. Non, mais, bon, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein.
Je pense qu'il faut quand même avoir en tête.
Oui, c'est vrai.
On va avoir la désignation des candidats. Donc, moi, je pense que l'élection américaine et l'économie américaine, effectivement, passé les troubles d'élection française, va peut-être à nouveau concentrer les regards. On a bien évidemment la saison de résultats qui est clé, qui devrait être bonne au vu de la macro et de ce que les boîtes sont capables de délivrer. Mais au sein de par rapport à cette élection américaine, il y a à nouveau un risque qui est donc les fameux tarifs en fait que proposent les candidats.
Oui.
Et l'impact que ça peut avoir sur le commerce mondial, sur les actions et sur les entreprises européennes.
Oui, bien sûr.
Les tensions que ça peut avoir vis-à-vis des Chinois. Et je pense que faut voir jusqu'où dans le cadre des débats et des propositions ils sont prêts à aller, mais ça peut créer là aussi des remous. Parce que indépendamment de ce risque d'inflation liée à ces tarifs ou aux propositions de la campagne, je pense que la trajectoire de l'inflation américaine est plutôt favorable et plutôt en ligne avec des baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année.
C'est
l'année
l'avis général, c'est pour ça que pour moi c'est
mais
ce
c'est également ce que oui, mais c'est exactement ce que c'est également ce que les chiffres nous racontent pour l'instant.
Oui.
On suivra ça de très près. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché aujourd'hui. Merci à Gilles Guibourg, responsable des actions européennes chez AXA IM.
Merci
Valérie Gasteldi, stratégiste Day by Day. Merci David Belloc, stratégiste et géant chez Mirova.